Imaginez une seconde, une voix qui tremble de trac, ou disons qui déraille en plein milieu d'une présentation.
Ouais, le fameux chat dans la gorge.
Voilà, exactement. Ou la voix qui se fêle carrément sous le coup de l'émotion. C'est presque toujours perçu comme, bah, comme une vulnérabilité, en fait.
C'est clair, on voit ça comme une défaillance.
Une défaillance physique, oui, qu'il faudrait masquer à tout prix pour paraître professionnel ou sûr de soi. Mais si, au contraire, cette tension nerveuse, c'était justement le matériau brut idéal pour captiver un auditoire.
C'est une question qui change tout, effectivement.
Et c'est exactement l'approche que nous explorons aujourd'hui. C'est une idée vraiment radicale qui prend le contre-pied de toutes nos habitudes. Au centre de cette réflexion, il y a une phrase toute simple, tirée de nos sources, mais qui frappe super fort. « Ma voix, c'est moi ».
Ah, c'est puissant comme postulat, ouais.
Vraiment, parce qu'au quotidien, on a plutôt tendance à traiter la voix comme un simple bruit utilitaire, quoi. Un transporteur de mots. Ou pire, une fatalité génétique. Donc bon, décortiquons tout ça.
Avec plaisir.
L'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, c'est d'analyser en profondeur les documents sur Vocalize. C'est la pédagogie développée par Valentina Vagliani.
C'est ça, oui.
Et c'est une méthode qui relie directement la technique vocale à notre identité intime, à notre bien-être et même à la dynamique de groupe.
Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est cette remise en question totale de nos certitudes biologiques, en fait.
Comment ça ?
Bah, l'idée très ancrée dans notre culture, c'est de dire « j'ai une belle voix » ou « j'ai une petite voix fluette », exactement comme on dirait…
Comme on dirait « j'ai les yeux bleus ».
Exactement. Ou « je chausse du 42 ». On aborde le timbre vocal comme une donnée immuable, un truc figé, dès la naissance, quoi.
C'est vrai qu'on n'imagine pas pouvoir changer sa voix à part en l'habillement.
Et toute l'ingéniosité de l'approche de Vagliani, c'est de briser cette fatalité. La voix n'est plus du tout vue comme une caractéristique passive. Elle est traitée comme une matière malléable. Le texte parle d'un acte de création, d'un geste à parfaire.
Un geste à parfait, ouais. Ça change tout le paradigme.
Absolument. Et la différence fondamentale avec les cours d'art orateur classique se situe là. On ne cherche pas à poser sa voix artificiellement pour imiter un standard. On cherche une vraie connexion entre la mécanique physiologique et l'émotion.
Du coup, pour filer la métaphore, si on arrête de voir la voix comme la couleur de nos iris, qu'on ne peut pas modifier, on commence à la voir comme un bloc d'argile.
Une sculpture en devenir, oui.
Mais concrètement, comment on sculpte un truc invisible? Parce que les approches classiques qu'on nous vend en entreprise, elles ont tendance à donner des recettes toutes faites.
Oh oui, les fameux « tenez-vous droit, respirez par le ventre ».
C'est ça, baisser le menton pour assombrir le timbre, c'est presque de l'orthopédie en fait. En quoi la méthode Vocalize fait ça différemment pour façonner ce bloc d'argile?
Alors, la limite de cette approche orthopédique, pour reprendre votre terme, c'est qu'elle fabrique des orateurs qui sonnent faux. On a tous déjà entendu ce profil, non?
La personne avec la voix de radio ultra préfabriquée.
Oui, voilà. Le son est grave, c'est fort, mais bah, c'est creux.
Ça manque de sincérité, quoi.
Ça sonne creux parce que la mécanique est totalement déconnectée de l'intention. La méthode Vagliani, elle, part du principe que la voix, c'est d'abord un mouvement corporel super complexe. Des cordes vocales qui vibrent, l'air expulsé par le diaphragme, les résonateurs osseux du crâne.
Oui, de la physique pure jusque-là.
Voilà. Mais pour stabiliser ce son, pour qu'il soit authentique, la pédagogie exige de coupler ces outils physiologiques aux outils émotionnels. Si l'état interne n'est pas aligné avec l'effort physique du larynx, bah, la voix reste fragile. Ou pire, on dirait une imposture.
Mais attendez, c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Quand on regarde comment cette méthode s'applique à la voix parlée, surtout pour parler en public ou affronter une scène, l'objectif, c'est d'acquérir de l'assurance.
Tout à fait.
Or, les documents insistent sur un point précis. Ils disent qu'il ne faut pas étouffer son émotion, mais la canaliser. Mais quand le trac monte, la gorge se serre, le cœur s'emballe, notre réflexe de survie, c'est de tout verrouiller, non? Pour ne pas paraître faible.
C'est le réflexe habituel, oui.
Si Vagliani refuse de masquer cette panique et demande de s'en servir, on ne risque pas de finir en crise d'angoisse en plein conseil d'administration?
C'est un risque uniquement si l'on confond subir son émotion et canaliser son émotion.
Ah, nuance importante!
Très importante. La méthode ne dit pas de s'effondrer en larmes devant tout le monde. Elle propose de changer le circuit de l'énergie nerveuse. Quand le trac est là, l'énergie est physiquement là. C'est de l'adrénaline, de la tension musculaire.
C'est le corps qui se prépare au danger, en fait.
Exactement. Le verrouillage dont vous parlez crée une lutte. Le corps veut expulser une tension et votre esprit contracte la gorge pour la retenir. Et bim, c'est cette friction qui fait trembler la voix.
D'accord, je vois très bien le mécanisme.
Et la pédagogie Vocalize intervient là. Elle demande d'abord d'entendre et de ressentir cette voix. Au lieu d'écraser la peur, on utilise ce surcroît de pression d'air pour donner de la texture et de la puissance au son. L'émotion devient le carburant.
C'est un peu une forme de judo psychologique, en fait.
C'est une excellente image, ouais.
On utilise la force de l'adversaire, donc le stress, au lieu de s'épuiser à bloquer l'attaque. Et ce qui est fou, c'est l'impact de tout ça. Les sources parlent carrément d'un bien-être physique et psychique.
Un vrai soulagement, oui.
On cherche juste une technique pour faire en PowerPoint sans bafouiller et on aboutit à un mieux-être existentiel. Ça paraît énorme comme résultat, non?
Ça paraît énorme, oui. Sauf si l'on sous-estime le poids de la dissonance cognitive.
C'est-à-dire?
Eh bien, quand on masque ses émotions derrière une voix artificielle, on s'inflige une violence psychologique constante. Et musculaire aussi. Les cordes vocales sont hypersensibles au stress. En trouvant cet alignement dont on parlait, la dissonance disparaît.
Le fameux « ma voix, c'est moi ».
Le corps se détend parce qu'il ne ment plus en gros.
C'est ça. C'est la validation somatique de notre vérité intérieure. Et ça déclenche une vraie sécurité psychique.
C'est génial. Donc, cette maîtrise de la voix parlée crée une telle libération qu'à un moment, la simple parole atteint presque ses limites.
On a besoin d'aller plus loin, oui. Et pour exprimer pleinement cette énergie, la pédagogie bascule vers une autre dimension. La mélodie. Le chant.
Le chant, oui. Et ce n'est pas vu comme un loisir du dimanche, là. C'est le prolongement naturel du travail sur la voix parlée.
C'est l'amplification de tout ça.
Exactement. Le chant oblige à soutenir l'air beaucoup plus longtemps, à faire résonner le son dans des zones du corps qu'on n'utilise pas juste en parlant. On devient littéralement une caisse de résonance vivante, d'où cette sensation de plénitude et de plaisir mentionnée dans les textes.
Ce qui nous amène à la pratique collective. Et alors là, c'est sans doute l'aspect qui m'a le plus bousculé. La polyphonie vocale. Le fait de chanter à plusieurs.
C'est une étape cruciale de la méthode.
Mais quand on pense chorale, on s'attend aux clichés habituels. La fraternité, la cohésion et surtout l'oubli de soi pour le groupe, quoi.
L'effacement au profit du cœur, oui.
Voilà. Or, la méthode Vocalize utilise un terme hyper inattendu ici. Ils disent que la polyphonie sert à cultiver son assertivité.
Ce qui surprend beaucoup de monde en général.
Bah oui. En management, l'assertivité, c'est s'affirmer sans écraser l'autre et sans se soumettre. Comment on peut lier ça au fait de se fondre dans un groupe de chanteurs? C'est contradictoire.
Alors, c'est l'erreur d'interprétation la plus courante. Ce que vous décrivez, c'est le chant à l'unisson, là où tout le monde produit la même note. Oui, là, il faut gommer ses aspérités. Mais la polyphonie, c'est totalement différent.
Ah, parce qu'on chante des choses différentes.
Voilà. Le groupe est divisé en plusieurs pupitres avec des mélodies distinctes, mais complémentaires. Le but, ce n'est pas de faire le même son que le voisin, c'est de créer un accord, une tension harmonique.
Donc il faut tenir sa propre note coûte que coûte, pendant que la personne à 20 cm de vous chante un truc complètement différent.
Exactement. Et ça demande une solidité nerveuse incroyable pour ne pas se laisser happer. C'est la métaphore acoustique parfaite de l'assertivité.
Faire entendre sa voix et écouter celle des autres. C'est brillant.
C'est exactement ça. Si vous manquez d'assurance, vous vous effacez. Et votre note disparaît. L'accord s'effondre. Ça, c'est le manque d'assertivité par soumission.
Et j'imagine que si on hurle pour couvrir les autres?
Vous détruisez l'harmonie par agressivité. Voilà. La polyphonie oblige à un équilibre millimétré. Garder son ancrage, affirmer son identité sonore, tout en restant en écoute active et empathique.
C'est l'ultime simulation des dynamiques relationnelles. On transpose ça direct en salle de réunion. Tenir sa note sans écraser le collègue. C'est dingue. C'est ça qui m'a frappé. D'un côté, le format individuel, très intime, presque thérapeutique avec le soin de la voix.
Oui, le tête-à-tête pour réparer l'instrument, on va dire.
Et à l'autre bout, boum, des interventions d'entreprise, de l'événementiel, des ateliers-conférences pour des équipes entières. Ça pourrait paraître un peu décousu comme offre.
Ça le serait si c'était juste un cours de technique vocale classique. Mais là, l'outil central, c'est l'être humain.
La mécanique de base est la même pour tout le monde.
Exactement. Que ce soit un comédien seul sur scène ou un manager qui gère une crise, c'est le même circuit d'alignement intérieur. La méthode reconnecte l'intention psychologique au corps. Donc ça s'adresse à toute personne qui communique.
Et ensuite, les ateliers de polyphonie mettent cet instrument à l'épreuve des autres pour créer de la cohésion. Tout est lié par ce fil conducteur indestructible.
Oui, la voix n'est vraiment pas un accessoire.
C'est la manifestation physique de l'identité en action. Pour résumer cette plongée fascinante, on peut retenir que la méthodologie Vocalize renverse vraiment notre rapport à l'oral. on ne subit plus sa voix.
On la façonne consciemment.
Et on ne combat plus le trac, on en fait le moteur de son assurance. Que ce soit par la voix parlée ou par l'exigence du chant polyphonique, pour exister dans un groupe, le but dépasse la communication. C'est l'accès à une vraie assertivité et à un bien-être existentiel profond.
Ça confirme que travailler sa voix, ce n'est pas juste ajouter un vernis social. C'est un travail de dépouillement pour révéler qui l'on est vraiment et prendre sa juste place.
Et ça m'amène inévitablement à une dernière réflexion, un peu provocatrice peut-être.
Allez-y.
Quand on regarde notre époque moderne à travers ce prisme, si la voix est le prolongement direct de notre identité et qu'il faut la façonner activement pour être bien, quel est l'impact de nos modes de communication actuels ?
Ah oui, le tout numérique.
Bah oui, la majorité de nos interactions bascule vers le silence total. On délègue notre expression à des claviers, des emails. On tente de résumer des émotions super complexes avec des emojis génériques.
Au lieu d'y les canaliser physiquement dans nos cordes vocales.
Exactement. À force d'économiser ce geste vocal, à force de déconnecter notre corps de notre message au quotidien, est-ce qu'on ne risque pas d'atrophier notre propre assertivité émotionnelle ?
C'est une excellente question.
Si ce fameux bloc d'argile n'est plus jamais malaxé ni exposé aux autres, l'identité elle-même ne risque-t-elle pas de se lisser et de s'effacer ?
C'est vertigineux quand on y pense.
Une dynamique troublante, oui, qu'il faut observer de près. Surtout quand on réalise à quel point ce constat est fondamental. Ma voix, c'est moi.